Plus on me dit que c'est impossible, plus j'ai envie de le faire et de réussir. On sauve pas des vies et moi je suis vraiment consciente que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Mais c'est important de préparer les choses, de structurer les choses. Bien sûr, faites ce que vous avez envie, ce qui vous porte, on n'a qu'une vie. Mais il faut aussi bien préparer les choses pour pas se retrouver aussi dans des situations compliquées. Et ce que je dis beaucoup, c'est rêver grand mais travailler très dur pour atteindre vos objectifs. Mais tout est possible si vous vous donnez les moyens, sincèrement.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Clarisse.
Hello Alec.
Comment tu vas?
Très bien, merci, et toi?
Eh ben écoute, en pleine forme, ça me fait super plaisir de t'avoir ici pour un nouvel épisode du podcast Le Déclic. Je pense que cet épisode va en inspirer plus d'une. T'as un parcours assez dingue. Je vais évoquer justement rapidement ton parcours et ta présentation. Donc Clarisse Castan, connue notamment pour ta carrière fulgurante chez Accor. T'es passée là-bas de junior dans le digital à directrice de cabinet à l'âge de 23 ans avant de devenir la directrice média et influence, gérant la communication digitale et les relations avec des célébrités de renommée mondiale. Récemment, t'as été aussi mise en avant au travers du Forbes 30 Under 30. Le 15 mai dernier, tu fondes Ginger & Lemon, une agence de communication et de gestion des célébrités, connue notamment pour travailler avec des marques de prestige comme APM Monaco, Fenty Beauty, Dyson et des marques également du groupe LVMH. Assistant également à de grands événements comme le Grand Prix de Monaco, le Festival de Cannes et bien d'autres, mais également reconnu pour ton travail aux côtés de personnalités de stature internationale, collaborant notamment avec des talents tels que Mbappé, Dembélé, Teddy Riner, Pierre Gasly, des chefs étoilés aussi ou encore des artistes de renom comme Paul Mirabel, Ahmed Silla et j'en passe. Tout ça en un laps de temps relativement court. On va revenir justement sur tout ce parcours et tout ce que tu as mis en place et félicitations pour ça, mais avant... j'ai envie de te poser 2-3 questions sur tes débuts et sur l'évolution de ta carrière, notamment chez Accor, avec une rapidité quand même assez incroyable, passant de junior à directrice de cabinet en très peu de temps, avant de devenir la directrice média et influence. Pourrais-tu nous dire comment cette expérience assez intense, du coup, a influencé ton identité et la personne que tu es aujourd'hui?
Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper heureuse d'échanger avec toi. Comment ça m'a formée ou comment ça m'a influencée? Je pense que déjà avant de rentrer chez Accor, j'ai envoyé 150 CV. Donc tu vois, j'avais vraiment cette détermination de rentrer dans un grand groupe et je savais que ma carrière aurait une place importante parce que j'étais très vite un peu hors cadre, hors norme, dans le sens où tu vois, tous mes potes, ils allaient boire des verres au bar, profiter. Moi, du lundi au vendredi, j'étais chez Accor. Le samedi et le dimanche, je bossais de 6h à 20h dans un resto. Donc, je n'avais pas forcément ce laps de temps pour profiter avec mes proches, etc. Mais parce que j'avais envie de progresser, j'avais envie de progresser vite. Donc, je pense que cette détermination qui est encore très présente chez moi aujourd'hui m'a énormément portée et me porte encore. Et c'est ça qui a été aussi, tu vois, quelque chose de marquant tout au long de mon parcours.
Tu parles justement d'une détermination qui te porte. D'où te vient cette détermination?
Je pense que ça me vient depuis que je suis toute petite. En fait, le travail pour moi, ça a toujours été un peu comme une thérapie. Ça a été aussi mon moteur. Et c'est quelque chose où, dans tous les cas, je prends aussi beaucoup de recul parce que je pars du principe qu'on ne sauve pas des vies. J'ai grandi dans une famille hyper unie. Je suis très proche de ma famille. C'est mon pilier, de mon frère et de ma sœur. Mais on a vécu des choses quand j'étais plus petite qui n'étaient pas forcément évidentes. Ma sœur a une maladie assez rare depuis qu'elle est toute petite, donc elle a passé la moitié de son enfance à l'hôpital. Et donc, ça marque évidemment la famille. On a eu un incendie, on a eu un cambriolage, ma mère a eu un cancer, mon père a failli mourir. Moi, j'ai eu aussi quelques hospitalisations. Donc tout ça, ça te fait aussi comprendre le sens de la vie, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc je travaille beaucoup, mais à côté de ça, tu vois, il faut toujours prendre du recul en se disant je vais être déterminée à atteindre mes objectifs, mais je reste aussi les pieds sur terre et en phase avec mes valeurs pour pas franchir certaines lignes ou ne plus me retrouver moi-même et de garder toujours voilà, ce socle qui est mes proches, mes valeurs et comment j'ai grandi.
C'est super intéressant que tu évoques tout de suite ce sujet. Je reviendrai après sur l'évolution et ton parcours, mais j'écoutais une interview de toi en préparant cet épisode et il y avait quelque chose qui était assez intéressant que tu évoquais. Tu disais, moi, j'ai toujours mon téléphone quelque part. Il n'y a pas un moment où j'arrête et je me déconnecte du boulot finalement. Mais pourtant, j'arrive à quand même créer un lien et trouver un équilibre. Comment tu fais? Parce que pour beaucoup, c'est très difficile de réussir à trouver un équilibre quand on est aussi intense, aussi dévoué et aussi impliqué dans son environnement professionnel, de réussir à trouver un équilibre dans son environnement personnel. Or, tu évoques ici le fait que c'est quelque chose de très important pour toi.
Ouais, complètement. En fait, je pense qu'au début, je me suis posé beaucoup de questions en me disant pourquoi, tu vois, le pro et le perso, ils se mélangent autant et pourquoi c'est autant H24 pour moi. Et au final, je me suis rendu compte que, tu vois, des grands patrons de boîte, des personnes qui sont dans le milieu dans lequel je travaille, etc., ils sont aussi comme ça. Ils sont quand même ultra connectés. Et puis pour tous les entrepreneurs. En vrai, tous les entrepreneurs, ils ne coupent pas à 18h. Le week-end, ils sont joignables. Les vacances, ils peuvent être connectés parce que c'est nos bébés, c'est nos boîtes à nous. Donc ça, moi, j'ai complètement accepté de me dire que le pro et le perso, c'était hyper lié. Je sais où sont mes sources d'énergie. J'aime trop les gens. J'ai besoin de parler à ma famille tous les jours. J'ai mes amis proches qui sont ma deuxième famille. Et puis, j'ai tout ce côté aussi avec les associations qui me tient énormément à cœur. Donc, j'essaye de balancer, de trouver un équilibre. Mais je ne suis pas quelqu'un qui m'épanouit en me disant « Je vais travailler de 8h à 18h du lundi au vendredi. » Et après, le reste du temps, je vais faire autre chose parce que, in fine, c'est un peu un métier passion aussi que j'ai. Alors évidemment, il y a des moments qui sont hyper durs, hein, mais je suis tellement heureuse d'avoir monté ma boîte, de travailler sur une diversité de sujets qui me plaît, qui me passionne, et surtout de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de les emmener quelque part, et même mes équipes avec qui j'adore bosser. Donc pour moi, le travail, même si c'est hyper intense, c'est pas quelque chose qui est douloureux.
Ouais, complètement. Finalement, on dit souvent, quand tu fais un job que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. C'est un peu le concept que tu évoques dit différemment. J'ai envie de revenir du coup sur ce parcours où tu as pu gravir les échelons relativement rapidement chez Accor et j'imagine monter en compétences et qu'ensuite ça t'a aussi donné l'envie de développer et créer ta boîte. Quels éléments tu penses qui t'ont permis de te démarquer et de gravir les échelons aussi rapidement, aussi jeune ?
Je pense qu'il y a, comme je te disais, la détermination, le fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. C'est aussi la vie qui a fait que j'ai fait des rencontres. Tu vois, je me fais repérer par Maud Bailly, qui à ce moment-là est un des membres de la direction du groupe Accor. Il a fallu que ce soit ma N+5, mais que son bureau soit à côté du mien et qu'elle me voit tout le temps travailler hyper tard. Être tout le temps là avant les autres, toujours partir après les autres. Donc il y a ça, il y a Yann Di Tullio qui a été mon boss du coup pendant 2 ans et qui est un mindset, qui vient des US, qui est US, canadien, italien, qui a travaillé au Qatar et qui n'avait jamais travaillé en France. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, lui, il a préféré par rapport à tous les autres profils prendre quelqu'un qui était jeune, qui avait de l'énergie, qui connaissait déjà un peu le groupe, plutôt que de prendre quelqu'un qui avait énormément d'expérience. Donc c'est aussi des gens comme ça, et Sébastien Bazin, évidemment, qui est le président directeur général d'Accor, c'est des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis d'asseoir ma position aussi, et que je voulais absolument pas décevoir. Donc, je pense que ça m'a encore plus donné de l'énergie et l'envie de vraiment réussir, de leur montrer qu'ils avaient eu raison de me donner confiance, de me donner ma chance d'avancer, et au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et vraiment... ça a été assez impressionnant. Je me souviens, Maud, au tout début, j'étais hyper impressionnée. J'étais limite trop contente quand je la croisais et qu'elle me disait bonjour. Maintenant, c'est une de mes mentors et je l'adore et c'est quelqu'un avec qui je suis hyper proche. Sébastien Bazin, c'est la même chose. Quand je suis rentrée chez Accor, j'avais postulé sur le site internet. Dès que je le voyais sur des conférences ou sur des prises de parole, je le prenais en photo. Mmh. Et j'ai toujours une admiration incroyable pour ces personnes-là. Mais c'est vrai que la relation aujourd'hui est différente. Et que je serai éternellement reconnaissante aussi de m'avoir donné ma chance. Et c'est ce que aussi moi j'essaye de faire au maximum avec des talents plus jeunes, que ce soit quand j'ai monté mon département ou quand là j'ai monté l'agence, de prendre des talents qui n'ont peut-être pas fait HEC, qui n'ont peut-être pas fait l'ENA, mais qui ont vraiment envie et qui bossent.
Ouais, ouais, complètement. Et tu évoques un sujet très intéressant finalement, c'est constituer ton équipe de talent. Le mot talent a beaucoup de puissance et d'importance, parce qu'un vrai talent, ça peut apporter énormément à une boîte. Or, trop peu de gens savent réellement ce qu'est un talent et identifier un talent. Aujourd'hui, tu dis que tu as constitué justement une équipe de talent autour de toi, et notamment lorsque aussi tu as dû créer ton département, maintenant pour ta boîte, avant pour ce département. Quels seraient les conseils a posteriori ou les erreurs peut-être que tu as fait en constituant cette équipe ou ces équipes à un certain moment, si tu en as fait identifier, que tu pourrais partager pour permettre aux gens de réellement savoir s'entourer de talent, quel que soit le projet, qu'il soit dans un cadre intrapreneur, salarial à haut niveau ou autre, ou dans un cadre plus personnel avec un projet personnel qui leur est propre.
En fait, parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose qui a toujours été hyper important pour moi, j'ai toujours tout centré sur l'humain. C'est-à-dire que oui, les études, c'est important, l'expérience, c'est important, mais je vais toujours privilégier quelqu'un avec qui je suis en phase avec les valeurs, ou avec l'énergie, ou avec l'envie, plutôt qu'un CV avec, comme je te le disais précédemment, l'ENA et que des grands groupes et une super expertise qui va m'expliquer par A plus B que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, je suis beaucoup aussi quelqu'un qui observe énormément, qui suit mon intuition. Et donc, l'équipe que j'avais formée chez Accor, j'étais évidemment allée prendre des talents aussi sur... des vrais experts, que ce soit chez Louboutin, chez Dior, chez Chanel, donc dans toute l'industrie du luxe, mais aussi des profils qui venaient de l'industrie du travel, donc de chez Club Med. Mais tous, ils avaient une super énergie, une envie d'avancer. Moi, je leur avais toujours dit, il n'y a pas d'hierarchie, c'est-à-dire vous pouvez être junior dans l'équipe ou manager ou directeur. Si vous avez des idées, que vous pensez que ça va créer de la valeur pour les marques du groupe et pour le groupe, on y va. Parce que ça a toujours été ma volonté et dans la boîte dans laquelle que j'ai créée, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir des super idées, tout le monde peut créer de la valeur, mais il faut se donner les moyens, il faut se fixer des objectifs, il faut observer. Et puis, il y a un moment aussi où la communication, c'est aussi de l'intuition et de l'humain. Et c'est ça qui a toujours, c'est ce qui m'a toujours portée en fait. Et c'est ce qui est le plus dur pour moi aussi quand j'ai quitté Accor. C'était évidemment de quitter cette année de ma vie où j'aime ce groupe profondément et j'aime les personnes qui le dirigent. Mais le plus dur du plus dur, c'était de quitter mon équipe que j'avais formée, que j'aime profondément, qui sont des super talents et avec qui, évidemment, je suis toujours en lien. Mais c'était ça. Et Ginger, je suis hyper, hyper contente parce que voilà, j'ai des super énergies autour de moi. J'interviens aussi pas mal dans les écoles. Donc, on a aussi des jeunes talents qui nous rejoignent. Et c'est canon.
Oui, complètement. Et justement, en mai dernier, tu quittes Accor pour mener ton propre projet et créer du coup Ginger. Quel a été le moment précis où tu décides de quitter Accor pour créer Ginger & Lemon ? C'est quoi le déclic ? Est-ce qu'il y a un événement déclencheur, un truc particulier qui fait que tu as cette réalisation qui t'a poussé à franchir le pas vers l'entrepreneuriat ?
En fait, il y a un an pile. Jamais de la vie, je t'aurais dit que j'aurais mon agence de com ou ma boîte. Moi, j'étais un profil, il n'y a personne d'entrepreneur dans mes proches ou dans ma famille. J'étais un profil où mon objectif, c'était d'être dans un grand groupe. J'avais gravi les échelons chez Accor. J'étais chassée par deux autres grands groupes. Et sur le papier, c'était mon rêve. Sur le papier, c'était mon rêve. Mais je ne sais pas, il n'y avait pas cette petite flamme à l'intérieur de moi où je me disais... Clarisse, c'est ce que tu voulais absolument il y a 10 ans en arrière. Tu aurais rêvé de ça. Tu aurais crevé pour ça. Et là, il n'y a pas le petit truc qui te dit « Allez, vas-y, c'est ce que tu voulais. » Et chez Accor, je commençais à avoir atteint aussi mon plafond de verre. Et ça faisait un an et demi qu'il y avait des marques et des talents, des célébrités qui venaient me dire « Clarisse, viens, bosse avec nous sur l'image, sur la com, sur des events, etc. » Et je leur disais « Ben non, moi, je suis chez Accor. » Pour l'instant, laissez-moi tranquille. Et je voyais quand même de plus en plus d'opportunités autour de moi. Et puis, sur les fêtes de fin d'année l'année dernière, je pars en mission humanitaire en Afrique. Je passe 3 semaines là-bas. Et mine de rien, ça fait prendre du recul sur pas mal de choses. Et je suis quelqu'un qui est super drivé pour les objectifs. Par les objectifs, pardon. Je rentre vers le 10 janvier. Et j'avais pris ma décision en Afrique. En me disant, ça y est Clarisse, maintenant, tu vas c'est le moment de faire ta boîte, de lancer ta boîte, d'avancer et d'aller vers ton risque, comme je l'ai fait quand je suis devenue directrice de cabinet, parce que tout le monde m'avait dit, si tu fais ça, tu vas faire un burn-out à 23 ans, tu n'as pas l'expertise, etc. Donc, je pense que aussi, j'aime bien aller vers mon risque. Et les deux choses, tu vois, qu'il fallait vraiment que je passe comme étape, c'était un, parler à ma famille en leur disant, j'ai toujours rêvé d'être là où je suis, mais je vais quitter toute cette sécurité pour montrer un projet dans lequel je crois énormément et j'avais trop peur de leur réaction ou qu'ils me disent que j'étais folle, que ça allait être compliqué, que j'avais quand même un crédit à payer tous les mois, etc. Et au final, ils ont été super supportifs en me disant, bah, Clarisse, on avance ensemble. De toute façon, vu comment tu travailles, t'inquiète pas, on sera derrière toi. Et puis, c'était de parler aussi au président directeur du groupe Accor, donc Sébastien, de lui dire que j'avais décidé de quitter le groupe, alors qu'il m'a aussi permis de grandir dans le groupe, d'apprendre énormément. Et j'avais aussi cette appréhension. Et c'est quelqu'un qui, évidemment, n'avait pas forcément envie que je parte, mais qui a été aussi d'un support incroyable et avec qui dès qu'on peut continuer à créer de la valeur pour le groupe ou pour les marques du groupe, on le fait en très bonne intelligence.
Complètement. Merci pour ça et ta transparence. Tu as évoqué quelque chose d'extrêmement intéressant ici, c'est que tu quittes un statut, tu quittes une stabilité, tu quittes un job qui était considéré pour toi comme un peu le job de tes rêves pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc pour te lancer un peu d'une part dans l'inconnu, parce que c'est ta première expérience entrepreneuriale, mais en plus de ça, tu disais que tu n'avais pas forcément un entourage entrepreneurial. L'entrepreneuriat, c'est un vrai métier, c'est un risque. Tout le monde autour de toi te dit que c'est aussi un risque. Qu'est-ce qui fait que finalement, malgré ces conditions qui effectivement ne sont pas forcément des conditions qui te poussent à entreprendre, qui t'encouragent, qui te motivent à entreprendre, bah, tu le fais quand même. Le sous-jacent de ma question, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, énormément de gens peut-être qui nous écoutent ce podcast dans leur voiture, en allant au travail, en cuisinant, en faisant leur sport, peu importe. Mais ont aujourd'hui un quotidien, une vie qui peut-être ne leur convient pas, font un job qui les stimule certes, qui était peut-être le job rêvé, etc., comme ça a été pour toi, mais il y a un petit truc, il y a une petite voix qui leur dit peut-être « t'exploites pas encore le plein potentiel de ce que tu fais » ou « est-ce que vraiment t'es heureux, t'es heureuse dans ce que tu fais au quotidien ?» ou « est-ce qu'il n'y a pas autre chose à découvrir dans la vie ?» Bref, des questions que tu t'es peut-être posées. Qu'est-ce qui fait toi, dans ton cas, que t'as osé là où beaucoup de gens, malheureusement, n'osent pas aujourd'hui ? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
En fait, pour moi, il y a trois choses. Il y a la première chose, c'est mon caractère où plus on me dit que c'est impossible, plus j'ai envie de le faire et de réussir. Il y a cette chose-là qui revient beaucoup chez moi et donc ça fait vraiment partie de mon caractère. La deuxième chose, c'est ce que je te disais dès le début, c'est on sauve pas des vies et moi je suis vraiment consciente que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc ça, ça m'a énormément poussée. Mais c'est important de préparer les choses, de structurer les choses. Quand j'ai lancé l'agence, je savais déjà que j'avais des clients. Parce que tu vois, sur le dernier podcast, j'ai même reçu des messages qui me disaient « ça y est, tu m'as donné la force, je vais démissionner, etc. » Bien sûr, faites ce que vous avez envie, ce qui vous porte. On n'a qu'une vie, on n'a vraiment qu'une vie. Ou alors, je ne suis pas au courant qu'on en a plusieurs, mais sincèrement, il faut pas avoir de regrets, essayer d'avancer, etc. Mais il faut aussi bien préparer les choses pour ne pas se retrouver aussi dans des situations compliquées. Pardon. Et moi, je suis allée très vite dans le sens où je suis rentrée, tu vois, mi-janvier, le 15 mai. Le 4 mai, je quitte Accor, le 15 mai, je lance la boîte. Mais j'avais tout structuré, je savais déjà les premiers clients que j'allais avoir. Le 16 mai, je faisais ma première OP. Donc, à partir du moment où j'avais ça, je travaillais déjà beaucoup chez Accor. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu aucun jour off. Je travaillais jour et nuit.
Ouais, je vois. Ce qui est intéressant, c'est que tu as préparé ton départ et tu as préparé ton terrain aussi. Donc, tu n'arrivais pas dans une inconnue complète. ou peut-être aujourd'hui certaines personnes qui vont se lancer, ils ont envie de se lancer mais ils ne savent pas encore, donc ça c'est quand même un point important que tu soulignes. Finalement aujourd'hui, c'est quoi la mission principale de Ginger & Lemon et comment est-ce que tu as envisagé de fusionner la communication et le celebrity management au sein même de ton agence?
En fait, j'ai fait deux pôles. J'ai un pôle vraiment marque sur lesquels on les accompagne, sur des stratégies globales, sur du business development, sur de la content creation, sur des plans de marketing, sur des plans de communication, sur du PR, sur de l'événementiel. Et tu vois, donc il y a des choses évidemment qui se voient sur les réseaux sociaux ou sur lesquels on peut communiquer. Il y a des choses qui ne se voient pas parce qu'on a des gros groupes aussi dans la santé, on a des clients privés pour qui on travaille et sur lesquels on ne communique pas trop, mais vraiment on fait de la strat pure ou de la communication pure ou du marketing pur. Donc ça, c'est le premier pôle de l'agence sur lequel c'est vrai que toute l'équipe travaille beaucoup. Et j'ai un deuxième pôle où on travaille aussi beaucoup, c'est sur toute la partie celebrity management. Et donc là, on accompagne à la fois des sportifs, à la fois des personnes dans la fashion, dans le cinéma, dans la food. Et pour eux, on fait évidemment du sur-mesure. Donc ça va être principalement des deals entre une marque et une personnalité. Ça va être aussi tout un accompagnement sur leur image. Donc ça peut toucher à leurs réseaux sociaux, à la presse. Même au stylisme. Et puis il y a certains aussi qu'on accompagne sur des sujets qui leur tiennent à cœur, que ce soit leur business, s'ils ont développé leur marque, ou s'ils ont leur asso, ou même, ça on en parle très peu, mais c'est des choses qu'on fait avec des business partners et des gens moi que je connais aussi de ma précédente vie ou que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure, c'est les conseiller aussi sur les investissements et sur préparer en fait la post-carrière, notamment sur toute la partie athlète.
Ouais, complètement. Et justement, tu évoques les athlètes, tu évoques les célébrités, tu évoques des personnalités connues avec qui tu travailles, tu as pu travailler, vous travaillez encore aujourd'hui, même avec qui tu as établi des liens relativement proches. Parce que pour en venir, typiquement, comme tu l'évoques là il y a un instant, à les conseiller aussi sur la partie investissement, patrimoine et autres, qui est une grande douleur d'ailleurs pour la plupart des sportifs. Moi, j'ai même été approché des fois par des joueurs de foot qui avaient pour objectif d'investir une partie de ce qu'ils gagnaient pour créer et constituer des business grâce notamment à des membres de leur famille pour pérenniser justement des revenus et des rentes par la suite. Donc ça passe par des business, ça passe par des investissements, ça passe par de l'immobilier, ça passe par différentes choses. Bref, tout ça pour dire, c'est quand même une vraie responsabilité d'être en contact avec des personnalités, des célébrités, des gens qu'on voit à la télé et finalement des gens que des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes adulent. Comment t'as fait la part des choses? Comment t'as fait pour t'adapter rapidement à ce niveau d'exposition, ce niveau d'exigence et ces enjeux? Parce que quand tu établis des stratégies pour, imaginons, une présence en ligne d'une marque ou d'un compte qui a quelques milliers de followers ou dizaines de milliers de followers, qui va avoir un impact certes, mais peut-être moindre, c'est pas forcément la même chose que quand tu le fais pour un grand groupe ou pour une personnalité qui fait partie du top 10, top 100 ou top 500 des personnalités les plus connues en France.
Bien sûr, j'avais commencé justement à travailler avec ces célébrités et j'ai monté le département de célébrités VIP Influence pour le groupe. Quand j'ai débarqué sur ces sujets-là, c'est notamment quand on a signé le deal Paris Saint-Germain Accor. Je n'avais jamais mis les pieds dans un stade de foot et encore moins au Parc des Princes. Donc typiquement, tu vois, la veille, voire la nuit, juste avant la conférence de presse, j'avais appris le nom des joueurs. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, que ce soit avec les joueurs, avec les pilotes de Formule 1, tu vois, Pierre Gasly le racontera en rigolant, mais la première fois que je l'ai vu, je lui ai demandé de quelle couleur était sa voiture. C'est-à-dire que j'ai la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais j'ai jamais été fan de quelque chose, que ce soit d'une célébrité, d'un sportif, etc. Donc, il y a le côté où, en fait, pour moi, c'est des humains. Et je ne vais pas du tout être dans la dynamique de court terme en me disant « je veux devenir ami avec cette personne » ou « je veux une photo de cette personne » ou « je veux un maillot dédicacé de cette personne », etc. Je leur parle à des personnes normales, c'est-à-dire je leur demande comment ils vont, c'est quoi les actus. Franchement, les joueurs de foot à qui je parle, je pense qu'on ne parle jamais de foot. Et c'est juste de se dire « en fait, je ne suis pas là par intérêt ». Et en fait, c'est un milieu qui est tout petit. Il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, qui vont essayer de profiter. Et moi, entre guillemets, j'essaye juste de leur amener ma valeur ajoutée, d'essayer de les amener certains sur la next step, de créer de la valeur pour eux, mais je ne dépends pas d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon business model ne dépend pas que des celebrities. Demain, cette partie-là, elle s'arrête. J'ai toute la partie marque avec qui je travaille. Je fais du consulting aussi pour certaines boîtes, etc. Donc, je ne suis pas dans une position où ma vie, elle dépend d'eux, en fait. Et donc, je pense que ça m'a aussi énormément aidée. Et c'est pas une fin en soi de me dire « je vais connaître un tel » ou « je vais être amie avec un tel ». C'est juste de me dire comment je les aide. Et c'est toujours aussi des sujets hyper passionnants. Et moi, ce que j'adore, c'est que ça me permet aussi de découvrir certaines industries que je connaissais pas du tout. Je travaillais avec un talent dans la musique, c'était une industrie que je connaissais pas du tout. Et c'est hyper passionnant.
Ouais, complètement. Et est-ce que tu peux, peut-être en nous donnant un exemple ou autre, nous expliquer dans quelle mesure tu aides les célébrités que tu accompagnes? Et après, on passera aussi sur les marques, parce qu'une stratégie qu'on applique à une célébrité, quelle qu'elle soit, n'est pas la même qu'on applique à une marque, forcément. Et avoir cette double compétence, c'est assez rare. Je pense que c'est aussi ce qui fait votre unicité et la complémentarité vraiment de cette notion de communication et celebrity management. Ça peut être intéressant d'en savoir plus.
Bien sûr, je pense que ma vraie valeur ajoutée et mon expertise, elle est sur toute la partie stratégie, structure, vision, parce que j'en ai bouffé pendant plein d'années, et quand tu as un job de directrice de cabinet, tu as la chance de côtoyer des personnes qui ont 10, 15, 20, 25 ans, voire plus d'expérience que toi. Donc de connaissances plus importantes que toi. J'ai travaillé en plus à l'international, donc avec une diversité de cultures. Et donc tout ça, ça m'a permis aussi de à chaque fois que je suis exposée à un sujet, que ce soit une marque ou avec un talent, de me dire, ok, je vais avoir une structure pour savoir exactement là où on va aller. Donc il y a cette partie-là. Et surtout, sur toute la partie célébrité, c'est des gens qui n'ont pas forcément travaillé en entreprise, qui ne savent pas forcément construire une stratégie. Mais la différence entre marque et célébrité, c'est vraiment le truc où, en fait, la marque, tu travailles pour une marque. Sur la partie célébrité, tu travailles pour un humain, pour une personne. Et donc, du coup, il faut faire attention à ses valeurs, évidemment, comme pour la marque, mais aussi en fonction de ses émotions, en fonction de ses résultats sportifs, en fonction de ses actualités musiques, en fonction de ses soucis aussi qu'il peut avoir du côté perso, famille, etc. Il faut aussi prendre tout ça en compte parce que ça a aussi un impact sur les sujets qui vont être en cours sur les réseaux sociaux, les communications qu'on va avoir, les deals qu'on va faire avec les marques. Et c'est pour ça aussi que je suis très connectée. C'est parce qu'il peut se passer des choses toutes les secondes sur les réseaux sociaux et avec les différentes actus que chacun peut avoir et sur différents aussi fuseaux horaires.
Ouais, complètement. Et si on parle justement, on reste sur ce côté célébrité star, j'imagine que ça t'est peut-être déjà arrivé ou alors c'est un sujet qui a déjà été évoqué. Quand tu gères la présence en ligne d'une personnalité, à un moment donné ou à un autre, vient le moment où on doit parler des éventuels débats ou éventuels, comment on dit, clash, polémiques ou autres qui pourraient atteindre l'une ou l'autre de ces personnalités parce qu'ils sont extrêmement suivis mais aussi extrêmement surveillés et parfois il suffit de peu pour justement créer une situation de crise. Est-ce que dans ton expérience, tu as dû gérer des situations de crise et le cas échéant, comment est-ce que tu les as gérées vu les enjeux derrière? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'osent pas forcément se lancer sur les réseaux à cause du regard des autres, à cause de tous les problèmes qu'ils peuvent imaginer ou pas, qui arriveront très certainement pas d'ailleurs. Ça peut être intéressant d'avoir un exemple concret qui t'est arrivé ou dont tu as entendu parler dans le cadre de ton expérience pour se rendre compte à quel point des fois, oui, ça peut avoir des enjeux importants, mais à notre échelle, déjà, il faut commencer par se lancer, puis on verra ensuite, quoi.
Sincèrement, tu peux prévoir un process de crise dans le cas où il y aurait une crise, parce que tu sais qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y aura une crise. Mais les cas, ils sont tellement particuliers et il faut tellement faire du sur-mesure que tu ne peux pas prévoir. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où, tu vois, je pense que il faut accepter que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas trop se poser de questions non plus. Et prendre des risques et tenter des choses, tout en étant vigilant, tu vois, et en s'accompagnant des meilleures personnes pour te guider et te conseiller. Mais il ne faut pas réfléchir pendant 10 ans. Une stratégie social media, si tu réfléchis pendant un mois, t'es mort, la tendance elle est déjà passée et les sujets sur lesquels tu devais réagir, c'est déjà mort, quoi.
Ouais, je vois. Et justement, tu parles de tendance. Aujourd'hui, est-ce que tu as un framework ou un outil que tu utilises au quotidien pour identifier les tendances, pour être à l'affût des dernières stratégies, des derniers outils, des dernières tactiques pour pouvoir aller chercher du résultat massif?
Alors, on regarde via nos plateformes avec qui on travaille, évidemment. Après, je passe quand même beaucoup de temps aussi, moi, à surveiller. Et puis, il y a des personnes dans la team qui font justement des benchmarks pour que, voilà, on soit toujours au cœur des tendances. Et on le fait, évidemment, sur toute la partie globale qui peut se passer sur les sujets com, sur la partie événementielle, sur la partie social media. Et sur la partie, évidemment, ben, competitors de tout... concurrence, pardon. Je fais du franglais parfois, désolé. Sur toute la partie concurrence de nos marques, mais aussi des autres artistes, de regarder les autres sportifs, etc., pour s'inspirer. Et je regarde beaucoup, 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 moi, ce qui se passe aux US, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe aussi... sur des marchés comme l'Afrique qui est en train d'exploser. Donc, on essaie aussi de s'inspirer aussi de la diversité internationale.
Ouais, complètement. Là, on était plus sur la partie stratégie média, réseaux sociaux et les enjeux liés à ça. Si on vient aussi sur la partie des challenges auxquels tu as pu faire face, parce qu'encore une fois, très jeune, on te donne beaucoup de responsabilités de par ton implication, de par tes ambitions, de par ta volonté, puis de par aussi tes compétences et tes performances. C'est quoi, s'il y en a un auquel tu penses directement, le challenge le plus important que limite tu percevais comme insurmontable, auquel tu as fait face dans le cadre de cette croissance que tu as vécue en termes de responsabilités et d'enjeux?
Franchement, il y en a trois. Et c'était pas insurmontable, mais je savais que c'était moi avec moi-même, au fond, où je devais prouver que j'avais raison. Le premier, c'est quand je deviens directrice de cabinet à 23 ans, et quand je te dis que j'en parle à très peu de personnes, mais les gens à qui j'en parle, bah, 4 personnes sur 5 me disent que je vais dans le mur et que je vais faire un burn-out. Mais au fond de moi, je sais qu'il faut que je le fasse. Quand je prends la direction du département comme digital, célébrité, influence, pareil. Je suis jeune, j'ai 26 ans, j'ai pas de personne à qui vraiment me référer en me disant je vais faire un copier-coller. Beaucoup de gens, je pense, doutent de moi sans vraiment me le dire, mais voilà, je prends la tête d'un département et je dois tout créer from scratch. Et j'ai surtout envie de montrer qu'ils ont eu raison de le faire, que j'ai une vraie vision pour le groupe, que j'ai une vraie expertise sur ces sujets-là et qu'on va avancer et créer de la valeur. Donc, il y a ça. Et puis, le dernier, évidemment, c'est quand je lance la boîte. Quand je lance la boîte, le nombre de réflexions que j'ai entendues précédemment. Et même si, on va dire, pour moi, la partie, on va dire, toxique, jalousie, ça doit représenter 10% VS 90% de gens hyper positifs qui vont te dire que tu leur donnes de l'espoir, qu'ils ont envie de bosser avec toi, etc. T'as toujours ces petites personnes toxiques qui... C'est trop facile, tu vois, de descendre les gens et de dire, bah, c'est une femme, elle a moins de 30 ans, pourquoi à 29 ans, elle lance une boîte, elle se concentre pas plutôt à faire des gosses et avoir un mari? De toute façon, quand elle sera plus chez Accor, c'est plus personne va la regarder, plus personne lui répondra au téléphone. Donc, évidemment, je m'arrête pas à ça, mais ça a forcément un impact. Et tu te dis, il faut que je réussisse. Et je me donne pas le choix que de réussir en me disant, je vais atteindre mes objectifs, je vais atteindre ce que je me suis fixé, et ça va fonctionner. Et donc, c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup. C'est parce que je savais que dès le premier mois, je voulais qu'il y ait du cash qui rentre dans la boîte et que je fasse des choses hyper qualitatives. C'est pour ça que je commence, je fais un truc en Arabie Saoudite le jour où je quitte Accor, Le soir même, je pars en Arabie Saoudite. Et le 15 mai, j'annonce la boîte. Le 16 mai, je fais ma première OP à Cannes avec des marques du groupe LVMH. On a bossé avec Netflix. On a bossé aussi avec APM Monaco. On a bossé avec des belles marques. On a fait des belles OP. Et c'était hyper important pour moi de, dès le début, donner le ton.
Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu évoques un point, c'est que tu disais, voilà, pourquoi elle lance sa boîte alors qu'elle devrait plutôt être concentrée à faire un gosse, etc. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas plus tard que 2 heures avec une invitée qui, avec qui j'ai fait aussi un épisode qui s'appelle Sonia et qui, elle, incarne aussi cette femme entrepreneur plein d'ambition avec une énergie de feu et qui vient du Canada. Donc, en plus, elle a vraiment le marché US dans le sang parce qu'à la base, tout son business, c'est international, c'est US. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon toi, dans notre société, c'est aussi tabou, mal vu et jugé qu'une femme ait envie de faire des choses et des ambitions et ose les exprimer, ose publiquement en parler, et dès lors qu'elle le fait, auprès de beaucoup de gens, malheureusement, elle va être jugée, elle va être abaissée, elle va pas être encouragée?
En fait, je pense que on a évolué. On a évolué. Mais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Je pense que c'est très français. Tu vas sur d'autres typologies de marché, le business va beaucoup plus vite, les gens sont hyper portés sur et inspirés par les personnes successful. Ouais, il y a un côté parfois un peu manque de fierté des réussites françaises, et puis ce côté, oui, la place de la femme, mais il y a énormément de progrès, et sincèrement, moi, tu vois, ce qui me porte, c'est tout l'espoir que je peux donner aux jeunes, tout l'espoir que je peux donner aussi aux femmes, et à un moment, d'accepter moi-même que je ne suis pas comme exactement, on va dire, un certain pourcentage de toutes les femmes de mon âge, qui peut-être sont en train de préparer leur mariage, ou qui sont déjà mariées, ou qui ont déjà des enfants, etc. C'est les clichés, les codes du format social aujourd'hui qu'on a, mais je ne suis pas sur ce format-là. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années en me disant « Ok Clarisse, tu n'es pas meilleure que les autres, mais juste accepte que tu es hors cadre, hors norme, et que du coup, tu n'as pas vraiment de référence où tu vas dire « Ce modèle, je le copie et je le colle. » Je veux avoir des enfants, je veux avoir une famille, ça a toujours été hyper important pour moi. Mais ça viendra quand ça viendra. Et je veux surtout l'avoir dans un contexte où je suis hyper épanouie, moi, que j'ai atteint certains objectifs professionnels et que j'ai aussi les moyens de leur offrir une vie qui me paraît convenable à mes yeux, quoi. Donc, je pense que c'est chacun ses objectifs, chacun ses normes. Et je suis sûre qu'au fur et à mesure, on va continuer à progresser sur ces sujets. Et même tu vois, l'équilibre salarial entre les femmes et les hommes, je pense qu'on a encore pas mal de choses à bouger.
Complètement. Tu parlais d'épanouissement, tu parlais d'objectifs. Y a un sujet qui est intéressant, c'est qu'avant même de lancer du coup ton projet, tu es reconnu par Forbes 30 Under 30, notamment sous ton poste de direction média influence chez Accor. C'est un rêve pour beaucoup. Qu'est-ce que cette distinction signifie pour toi personnellement et professionnellement d'une part? Et d'autre part, c'est quoi tes prochains objectifs, justement? Tu évoques des objectifs, de l'épanouissement, de l'accomplissement. C'est quoi la next step?
Forbes 30 Under 30, en toute transparence, c'était aussi un de mes rêves. Je pensais jamais l'avoir, surtout cette année. Moi, ça va être là dans quelques semaines, je vais avoir 30 ans, donc je savais que c'était en plus la dernière année pour l'avoir. J'allais quitter Accor, j'étais sûre que le prix était en octobre et pas en avril. Et je me disais, franchement, je vais avoir 3, 4, 5 mois de l'agence Ginger, ils ne vont pas me nommer déjà 30 Under 30. En fait, je me suis plantée sur toute la ligne. Ça sort en avril, un mois pile avant que je lance la boîte. Et je me dis juste, c'est incroyable. Et en fait, ça, tu vois, ça te donne énormément de force parce que c'est une reconnaissance extérieure, reconnue internationalement. Et je te promets, ça fait énormément de bien. Et la deuxième chose en termes d'objectifs, c'est évidemment de continuer à faire grandir Ginger & Lemon au niveau international. Comme je le disais, on a des projets sur les US, on a des projets sur toute la partie Moyen-Orient. Et l'objectif final pour moi, c'est d'avoir ma fondation. Donc, dans quelques années, Ginger and Lemon, c'est sûr que c'est une agence que je pense que je vais vendre, puisque je ne pourrai pas tout faire pour faire 100% la fondation. Mais entre-temps, ça va grandir. Je vais monter d'autres business parce que j'ai déjà d'autres idées. Je pense que quand tu passes le cap d'entrepreneur, tu as plein d'idées et tu as envie de monter plusieurs business. Mais voilà, l'objectif final et là où je vais, c'est d'avoir ma fondation et de faire que ça.
Et tu peux nous en dire plus justement sur cette fondation et c'est quoi les premières étapes que tu veux mettre en place pour concrétiser ce rêve ?
Alors la fondation, évidemment, comme je vois toujours les choses grandes, j'ai envie d'avoir 3 pôles bien dédiés. Un pôle pour les enfants. Tu vois, aujourd'hui, donc il y a tout ce que j'ai fait là en mission humanitaire en Afrique et normalement, je dois y retourner en fin d'année. Et puis après, avec les enfants, notamment, on fait pas mal d'actions sur les enfants atteints du cancer et qui sont à l'hôpital à Paris et en province. Les jeunes talents, évidemment, que j'ai envie de continuer à aider parce que c'est pas forcément toujours évident de trouver sa voie, d'être bien accompagné, bien entouré, de savoir où on va. Le deuxième pôle, c'est sur toute la partie femmes battues. J'ai quelqu'un que j'aime profondément, qui est très très proche de moi, qui a été battue et qui a vécu 2 ans de l'enfer. Ça m'a énormément affectée. Donc c'est quelque chose, une cause évidemment qui me tient à cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup 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 de progrès à faire sur ce sujet-là en France. Et le dernier, c'est sur les animaux. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi avec des animaux qu'on a toujours recueillis. C'était des chiens battus, des chiens abandonnés, des chats abandonnés. On a des chevaux, etc. Donc, c'est quelque chose aussi qui m'a énormément portée, qui me tient énormément à cœur et sur lequel aussi je continue à être engagée.
Hyper intéressant. Et c'est quoi les premières étapes que justement tu vas mettre en place pour concrètement rendre ce rêve réaliste ?
Écoute, pour l'instant, donc là, ça fait 5 mois, j'ai lancé la boîte. J'essaye au maximum d'équilibrer le temps que je passe avec la boîte et le temps que je peux passer avec les associations. Et en toute transparence, j'ai eu un très gros rendez-vous hier justement pour commencer à avancer sur ce sujet de fondation, puisque je ne vais pas la créer du jour au lendemain. Mais il y a des étapes où je peux commencer déjà à faire des choses pour aller soutenir des projets via ce que j'appelle moi une fondation qui sera la chose finale, mais la première étape, je pense qu'il va être mise en place très rapidement et j'espère d'ici la fin de l'année, ça va être un fonds de dotation que j'aurai et que je pourrai aussi utiliser pour aider différentes assos et différentes causes.
Ok, je vois. Je te souhaite en tout cas de le mettre en place. C'est aussi un objectif que j'ai, de mettre en place une fondation, je ne sais pas quand, mais d'ici je pense les 2 à 3 prochaines années, ça va être quelque chose qu'on va mettre en place sur d'autres thématiques, d'autres causes, mais je sais le travail que ça représente et on a aussi des gens qui travaillent avec moi depuis plusieurs années maintenant qui est bien, je pense notamment à une personne qui a une fondation pour les animaux qui travaille avec moi depuis 5-6 ans, donc je te rejoins. C'est une belle cause. J'ai envie de revenir sur la partie plus business. Il y a un point qui est capital, c'est le réseau. On sait tous les deux que le networking, c'est extrêmement important. De plus en plus de gens y sont sensibilisés. De plus en plus de gens aussi ont pour initiative de mettre en place soit des business clubs, soit des event networking, soit des rencontres où de plus en plus de gens se connectent sur LinkedIn. Le podcast aussi, c'est un catalyseur assez intéressant de réseau pour rencontrer des gens et puis permettre à d'autres d'être plus visibles pour leur permettre aussi de créer des connexions plus facilement. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu as réussi à développer un réseau puissant, un réseau qui te fait confiance, un réseau dans lequel il y a autant des dirigeants, décideurs de grands groupes qui vont travailler avec toi, un réseau dans lequel il y a également des célébrités, des stars, des artistes qui vont vouloir travailler avec toi et te donner leur image à gérer, qui est un des assets les plus précieux qu'ils ont. Donc, c'est dire à quel point justement il y a un trust qui a été créé entre eux et toi. Quels seraient les différents conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour premièrement réussir à développer un réseau qui a vraiment de la valeur par rapport à son activité sans pour autant vouloir être uniquement dans le fait de rencontrer des gens avec intérêt? Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est pas forcément une stratégie qui fonctionne à long terme. Et deuxièmement, réussir à le faire intelligemment, le pérenniser et capitaliser dessus.
Sincèrement, et c'est important, tu vois, que tu l'aies précisé, parce que sur les réseaux sociaux, tu vas beaucoup voir le fait que soit je suis avec des célébrités ou des personnes très connues que les gens admirent énormément, et j'ai aussi une admiration énorme pour tous les grands décideurs, les CEO, etc. Mais c'est vrai que mon réseau aussi est important sur cette partie-là, sur des décideurs, des patrons de boîte, des personnes influentes, etc., sur la partie business. Et ça, c'est vraiment un réseau que j'ai construit au fur et à mesure des années. Et ça peut paraître bateau, mais je me suis toujours basée sur l'humain, sur qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux les aider. J'ai jamais rien demandé. Par contre, dès qu'on m'a demandé quelque chose, je me suis toujours pliée en quatre. J'ai toujours répondu H24, les jours de week-end, les vacances, etc., pour essayer de les aider. Et j'ai jamais cherché mon intérêt en me disant bah, « dans quelques années, je vais monter une boîte et je me servirai de cette personne, etc. » Pas du tout. Déjà, je n'avais pas en tête de monter une boîte. Deuxièmement, je suis tellement en mode plus je donne, plus je suis heureuse parce que je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je crois aussi beaucoup aux énergies positives et quelque part un peu au karma aussi. Donc je pense que ouais, la clé, c'est l'humain. Et j'ai aussi été hyper agréablement surprise de me rendre compte que les relations humaines que j'avais créées, que ce soit avec les décideurs, les grands patrons et les personnes qui comptent énormément sur la partie business, mais aussi toute la partie célèbre, VIP et ce côté plus paillette, quand je quitte Accor, continue à me suivre et que limite ce soit les premiers à m'appeler en me disant « bon, c'est bon, t'as lancé ta boîte, on bosse ensemble, quoi ».
Et comment justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de développer son réseau pour le faire à ce niveau-là ?
J'ai jamais targeté, tu vois. Je me suis jamais dit « Ah, il faut que j'aille rencontrer une telle personne ». Et évidemment, les personnes aujourd'hui qui pèsent, qui peuvent avoir un impact, c'est des décideurs. Mais j'ai aussi plein de gens dans mon réseau, tu vois. Et c'est ce que j'ai appris aussi, je pense, de Sébastien. C'est il parle de la même façon à un président et il va porter le même intérêt à un président, à un propriétaire, à un investisseur que... au concierge en hôtel, à la femme de ménage, etc. Et moi, j'ai toujours été comme ça parce que j'ai été éduquée comme ça. C'est-à-dire que j'accorde mon importance à tout le monde, peu importe le niveau hiérarchique. Donc, tu vois, j'ai pas un conseil en me disant « va chercher sur LinkedIn, va à tel dîner, etc. » C'est plutôt « considère toutes les personnes que tu rencontres, focus-toi sur l'humain et surtout, prends toutes les rencontres comme une opportunité. » Moi, j'ai aussi créé un fort réseau parce que toutes les opportunités que j'ai eues, je les ai saisies. Que ce soit des meetings, que ce soit des personnes qui te sollicitent pour te rencontrer, des événements, quitte à faire parfois plusieurs événements par soir, des voyages. C'est vraiment de se dire, en fait, je peux me nourrir de tout le monde et je peux apprendre de tout le monde et je peux construire plein de choses avec les gens. Franchement, on va nulle part tout seul.
Ouais, je te rejoins sur ce point également. Et au fur et à mesure du temps, donc tu développes ton réseau, tu développes tout ça, c'est une vraie compétence. Est-ce que tu as identifié d'autres compétences, d'autres skills qui sont absolument indispensables à développer pour pouvoir... gérer des business à ces niveaux-là ou collaborer avec des personnes à ces niveaux-là.
En termes de compétences ?
Ouais.
Compétences, il faut quand même avoir, tu vois, toute une expertise sur les sujets de communication. Il faut avoir cette fibre-là et quand même une connaissance là-dessus. Moi, je suis très drivée objectif, comme je te le disais, et donc il y a quand même toute une partie chiffres. Qu'est-ce que ça va rapporter ? Quelle valeur ajoutée ça va créer pour telle marque ou pour telle personne. Et sincèrement, c'est un métier où il faut aimer les gens. si t'aimes pas les gens et que t'es pas passionné et que t'es pas prêt à faire certaines concessions, c'est difficile. C'est difficile et c'est très énergivore. Je sais pas si ça se dit, mais ça ouais. prend beaucoup d'énergie hein, de faire du sur-mesure, de faire en fonction de chacune des personnes et de pas avoir un modèle où on fait du copier-coller. C'est beaucoup d'investissement aussi de sa personne. Donc, je pense que ça, c'est des caractères et tu peux pas l'apprendre vraiment. Tu peux faire les meilleures business schools, les meilleures écoles de communication, les meilleurs MBA, etc. Si tu n'as pas cette fibre, j'aime les gens et j'ai cette intuition par rapport au bon coup de com et de m'inspirer aussi de tout ce qui peut se passer sur des marchés internationaux, ce n'est pas un métier forcément pour toi.
Ouais, complètement. Et justement, tu dis que c'est énergivore, c'est un travail intense, qui a un rythme assez dingue, effectivement. Comment tu trouves le temps, justement, de te ressourcer et quelles sont les différentes stratégies, peut-être, que tu as mis en place pour maintenir ta passion et ta détermination sans pour autant la perdre dans toute cette pression du quotidien?
Alors, bon, déjà, je dors pas beaucoup, je vais pas mentir. J'essaye de faire du sport quasi tous les jours. C'est ce qui me permet de prendre énormément de recul. Je passe du temps avec mes proches. Ce que je te dis, c'est que j'ai au moins un des membres de ma famille au téléphone. J'aime aussi, tu vois, toute la partie rencontre. Que ce soit sur des événements ou sur l'international. Donc, quand je suis fatiguée ou quand j'ai besoin d'énergie, il y a deux choses. Soit je rentre en Aveyron, soit je pars en déplacement. Parce que quand je suis à Paris, j'ai beaucoup de meetings, beaucoup de rendez-vous. Quand je suis en déplacement, j'en ai aussi beaucoup, mais moins. Et j'ai moins d'événements qui s'enchaînent tout le temps. Quand je suis à Paris, il y a des semaines où j'enchaîne parfois plusieurs événements par soir et je suis quasi jamais chez moi. Donc ouais, c'est des choses aussi qui m'aident beaucoup, je vais dire le sport, rentrer en Aveyron et partir en voyage, en déplacement.
Tiens, Laïa, merci pour cette réponse. Et il y a un point, je rebondis justement, c'est que tu dis j'enchaîne parfois plusieurs events par soir. Certaines personnes qui nous écoutent déjà, tu vois, faire un événement dans le mois ou dans le trimestre ou dans l'année, c'est déjà quelque chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités d'événements, networking. Puis en plus, quand tu commences à être invité à gauche, à droite, etc. Comment faire pour identifier et bien choisir les événements auxquels aller et auxquels on est sollicité finalement? Parce que quand tu commences à avoir un cercle et avoir un nom et être connu et reconnu, etc., des sollicitations, tu en as tout le temps, partout. Et savoir choisir comme savoir dire non, c'est une vraie aptitude qui a énormément de valeur parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas répondre à toutes les sollicitations. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à faire, notamment lorsqu'ils démarrent. Et est-ce que tu as un truc à partager par rapport à ça, d'une part dans ta capacité à identifier quelles sont les bonnes opportunités des moins bonnes, et d'autre part dans tes capacités à faire le tri et oser dire non et t'affirmer?
Ouais, alors ça, j'ai beaucoup évolué justement sur les dernières années. Je pense qu'au tout début, je faisais beaucoup d'événements et j'avais tendance énormément à dire oui. Et c'est aussi, tu vois, ce qui m'a énormément aidé à construire mon réseau parce que je rencontrais énormément de monde. Aujourd'hui, j'ai fait tellement d'événements, que ce soit en France et à l'étranger, que je sélectionne ceux qui vont être pertinents pour ma boîte, où en gros, soit c'est des clients, soit c'est des potentiels clients, soit c'est important pour moi. Ça va être par rapport, tu vois, à toute la partie investissement, engagement, etc., qui va me tenir à cœur. Mais sinon, j'ai plus aucun problème à dire non. À dire non ou à envoyer quelqu'un de mes équipes ou à tout simplement pas être présente. Je pense que c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure. Au début, je faisais beaucoup d'événements parce que ça m'a permis de construire mon réseau. Sur certains marchés, je continue à le développer avec grand plaisir, mais sur le marché français, j'ai atteint un réseau qui est relativement qualitatif et je pense que c'est mieux aussi de sélectionner au maximum et de faire du qualitatif et pas forcément du quantitatif. Moi, si j'ai aucun intérêt à me dire Clarisse est la boss de Ginger & Lemon et elle est sur tous les événements. Si ça n'a pas de valeur ajoutée pour la boîte, aucun intérêt. C'est de la perte de temps.
Ouais, complètement. Complètement savoir identifier là où tu apportes de la valeur ajoutée pour ta boîte, pour ta mission, pour ta vision, c'est capital. En mai dernier, donc, tu crées Ginger & Lemon. On a déjà parlé un petit peu de tout ça, mais pour qu'on se rende compte aujourd'hui, en quelques chiffres, après quelques mois justement de présence, en prenant en considération effectivement, comme on l'avait évoqué, que tu avais préparé un petit peu le terrain, que très rapidement, quelques jours après le lancement, tu as tout de suite tes premières OP, tes premiers événements, tes premiers clients, etc. Ça représente quoi aujourd'hui Ginger & Lemon? Avec quel type de clients tu travailles au quotidien? C'est quoi comme équipe? C'est quoi comme résultat?
Aujourd'hui, en termes d'équipe, on est 5. Et je pense que ça va grossir au fur et à mesure. Donc, tu vois, 5 mois, 5 people à travailler pour Ginger. En termes de chiffres, évidemment, je ne communiquerai pas, mais l'agence fonctionne très bien. Et on continue de grandir. Je pense que les clients, on en a parlé, c'est vraiment principalement du lifestyle et du luxe. Et après, c'est toute la partie athlète, musique, fashion. Avec qui on travaille.
Ok. C'est hyper intéressant. C'est ok que tu ne communiques pas tes chiffres. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'en France, c'est compliqué, difficile ou tabou de communiquer sur ces chiffres, sur ces résultats, alors que tu vois, toi qui connais aussi bien le monde anglo-saxon, américain, international, etc., là-bas, c'est limite une fierté. Et on parle de ces chiffres, qu'on soit petit, moyen, grand, immense, gigantesque, etc. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture également. Qu'est-ce qui fait ça selon toi? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de positif? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de négatif finalement?
Non, moi c'est juste pour pas... tu vois, j'aime pas parler pour rien dans le sens où ça fait que 5 mois que l'agence a été lancée.
Ouais.
Aujourd'hui, ça cartonne, je suis hyper contente, je suis plus dans une problématique de gérer la croissance. Je vais prospecter personne, c'est les clients qui viennent à nous, etc. Mais ça fait pas encore un an. Donc tu vois, peut-être qu'au bout d'un an, avec plaisir, je partagerai les chiffres et ça donnera encore plus envie aux gens de lancer leur business, etc. Mais c'est juste que tu vois, c'est pour moi step by step. Et effectivement, en France, les gens, personne ne communique son salaire, ils ont beaucoup de mal à partager leurs chiffres, etc. Alors qu'aux US, ça va être une vraie fierté et les choses que les gens veulent communiquer. Mais parce que c'est... On est très, sur les US ou sur d'autres marchés, on est très sur donner sa chance à tout le monde, le American Dream, essayer de... Ouais, les personnes successful, c'est inspirant. Alors que je pense que même si ça évolue au fur et à mesure, il y a quand même des mœurs en France où c'est négatif, mais il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie et on le voit sur les réseaux sociaux et ça, c'est très marché, tous les marchés confondus, mais je le vois avec mes athlètes, ils peuvent être adulés, adorés, les gens ils vont pleurer, ils vont les attendre pendant des heures, etc. Ils vont faire un mauvais match, ils vont les traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux, alors que ces personnes-là, elles ne sont même pas capables de courir une minute sur un terrain. Donc, c'est... Ouais, je pense que ça fait partie, malheureusement, des mœurs, et j'espère profondément que ça évoluera. Et moi, aujourd'hui, je ne te partage pas les chiffres, mais je les partagerai avec plaisir dans quelques temps. Je suis aussi sur des sujets où... Ben voilà, il y a déjà des investisseurs qui nous tournent autour, où je me pose des questions, et je ne veux pas griller les étapes. Ouais. Donc, je ne veux pas en dire trop au bout de 5 mois de lancement et y aller step by step.
Je comprends complètement, et c'est une approche qui est sage, effectivement. Avec le contexte, ça fait extrêmement sens. Également, un autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'en tant que jeune femme qui a été à la tête d'un département mondial et maintenant d'une entreprise qui connaît une belle croissance, tu le dis, tu es dans un enjeu où tu réfléchis comment absorber, tu as des clients qui arrivent sans même les prospecter. Quel conseil tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui aspirent à des rôles de leadership ou qui aspirent au fait de se lancer mais qui aujourd'hui n'osent pas ?
De croire en leurs rêves, sincèrement. De croire en elles, de s'entourer au maximum. Je ne me suis pas lancée toute seule, c'est-à-dire que oui, je suis la fondatrice de Ginger & Lemon, je suis toute seule au capital. C'est moi qui ai eu cette idée, c'est moi qui ai eu cette vision, etc. Mais j'ai pris énormément de conseils. J'ai des mentors qui sont incroyables, que j'appelle pas tous les jours, mais quand j'ai un doute, etc., je me pose 3 secondes et je les appelle pour avoir leurs avis. Et je ne suis pas au courant de tout. Donc voilà, moi je leur dirais, un, de croire en elles, d'aller vers leur risque, de se rappeler qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut faire ce qu'il nous tient à cœur pour pas avoir de regrets. Et 4, vraiment d'écouter et de s'entourer des bonnes personnes et de pas hésiter à demander de l'aide, sincèrement.
Ouais. Comment on fait pour trouver des gens pertinents qui veulent nous aider ? Parce que entre toi et moi, effectivement, tu as su développer un réseau. Aujourd'hui, j'ai développé un réseau. Donc, beaucoup de gens pourraient nous écouter et dire « Ouais, franchement, Clarisse, Alec, vraiment top le podcast. Les conseils sont super, merci beaucoup. Mais moi, aujourd'hui, je vous écoute. Je vais au boulot, je vous écoute dans ma voiture, je vous écoute dans ma cuisine, je vous écoute à la salle de sport. Je suis un peu perdu dans tout ça et je n'ai pas forcément de réseau. J'habite, je sais pas, à Rouen, à Lyon, à Rennes, à Bordeaux ou peu importe. Dans mon entourage, j'ai pas vraiment de gens qui entreprennent ou qui ont eu du succès. Comment je pourrais faire ? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement a besoin de ce petit coup de pouce, a besoin de cette épaule sur qui s'adosser pour avoir quelques conseils, mais ne sait pas comment s'y prendre pour développer un réseau de qualité ou trouver un mentor, un ou plusieurs mentors qui pourraient l'épauler sans pour autant devoir donner du capital ou s'associer à quelqu'un et prendre ce risque-là ?
Sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui essayent de donner la chance et de prendre du temps aussi pour conseiller. Moi, je sais que j'ai des demandes sur LinkedIn. Franchement, dès que je peux, où je sens que vraiment les personnes, elles se posent 10 000 questions et que, tu vois, elles sont un peu perdues, etc. Je ne le fais pas tous les jours, évidemment, je ne peux pas. Mais si je peux accorder de mon temps pour le faire, quand j'interviens dans les écoles, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est un... Essayer de trouver des personnes, que ce soit sur LinkedIn, avec qui ils peuvent avoir des conseils, avec des personnes en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en se cultivant sur des choses comme ça, pour prendre des conseils. Trouver des mentors, évidemment, ce n'est pas forcément toujours évident, mais de réfléchir à quelles sont les personnes dans leur carrière qui les ont marquées, qui les ont inspirées, parce qu'on rencontre quand même des gens tous les jours. Tu vois, moi, je me souviens d'un de mes premiers jobs d'été. Je travaillais dans une boutique de fringues. La manager que j'avais, c'est quelqu'un qui m'a marqué toute ma vie dans ma façon de fonctionner par rapport au management, etc. Parce que c'est quelqu'un aussi, voilà, qui, j'avais 18 ans, qui m'a donné ma chance. Donc, je pense que dans toutes les étapes de ta carrière, tu peux rencontrer des gens qui, soit par leur valeur, soit par leur énergie, soit par leur façon de travailler, peuvent t'inspirer et peuvent t'accompagner. Et puis après, il y a ton entourage. Moi, je parle de mes mentors qui sont mes mentors professionnels, mais tu vois, mon père a une place hyper importante dans tout ce que j'ai pu faire et choisir, notamment quand je deviens DIRCAB, parce que c'est une des seules personnes qui me dit « Clarisse, t'as 23 ans, si tu penses, toi, au fond de toi, que tu dois y aller, vas-y, et au pire, tu prends le mur, c'est pas grave, tu vas te relever. » Tu sauves pas des vies. Donc, de regarder aussi autour d'eux quelles sont les personnes qui ont une bonne énergie, qui peuvent les porter, les accompagner, les aider et se nourrir de ça.
Ouais, complètement.
Il y a aussi des coachs, tu vois. Il y a, donc, évidemment, oui, c'est un investissement, mais il y a des super coachs qui peuvent aussi t'aider, t'accompagner. Il y a des formations de la CCI, il y a des formations de Pôle emploi aussi. C'est juste de se dire que quand on décide ça, il faut vraiment mettre toute son énergie, autant qu'on peut, pour atteindre ces objectifs-là.
Ouais, complètement. Merci pour tous les éléments que tu as partagés ici. Merci pour cet épisode extrêmement intéressant et bravo pour ton parcours. Hâte de suivre la suite de l'aventure de Ginger & Lemon et ton aventure également. On mettra les liens de tes réseaux juste en dessous de l'épisode justement. Celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en interagissant sur le post LinkedIn de cet épisode, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de streaming préférée, ainsi qu'un avis. Clarisse, j'ai une dernière question à te poser, celle que je pose à chaque invité du Déclic. Ma question est la suivante. Est-ce que tu peux nous partager un élément qui, dans ta vie, a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, un vrai déclic pour le coup? Ça peut être une situation, ça peut être une citation, ça peut être une simple phrase, ça peut être une déception, ça peut être quelque chose de positif. Peu importe, personnel comme professionnel, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Il y a deux choses. Il y a la première, c'est mon année d'alternance avant de rentrer chez Accor. C'était dans une boîte dans le sud où j'en ai bavé pendant un an. Vraiment. Et je me suis dit, jamais je serai une manager comme ça. Clairement. Ça, c'est la première chose. Et ce que je dis beaucoup, c'est rêver grand, mais travailler très dur pour atteindre vos objectifs. Mais tout est possible si vous vous donnez les moyens, sincèrement.
Merci, Clarisse.
Merci à toi mille fois. Franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis à très vite.
Merci, à très vite.